Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. C'est toujours un vrai privilège d'ouvrir ce rendez-vous.
Surtout quand les documents qu'on examine bousculent vraiment nos idées reçues.
Ah ça oui. Et aujourd'hui, on va plonger dans une véritable capsule temporelle éditoriale. Ça nous vient tout droit du sud de la France.
Oui, on s'attaque au bulletin numéro 57 du Cartoclub Aveyronnier.
Exactement. Et avant même d'entrer dans les textes, il faut absolument s'arrêter sur la conception de cet objet. C'est impératif de saluer le travail monumental de Guy Mazard.
Oui, c'est vrai qu'il a fait un travail incroyable dessus.
Il porte une double casquette cruciale ici, parce qu'il est à la fois le rédacteur en chef et le concepteur de la mise en page de ce bulletin.
Et cette architecture éditoriale, elle n'a rien d'anodin en fait.
Non, c'est clair.
C'est vraiment grâce à sa minutie, à la façon dont les textes et les images sont agencés, que l'histoire prend vie sur le papier.
C'est l'écrin qui permet au contenu de résonner. Ouais.
Voilà, et pour cette exploration, notre mission va être très ciblée. Pour ne pas s'éparpiller, on va se concentrer exclusivement sur deux articles de ce bulletin.
Et on s'est fixé une règle stricte, le temps consacré au résumé et à l'analyse de ces deux textes ne dépassera absolument pas 15 minutes.
C'est ça, le but c'est de comprendre l'évolution, les soubresauts et la richesse insoupçonnée d'un musée local.
D'accord, décortiquons cela. On commence par le premier texte qui s'intitule « Petite histoire du musée Denis Puech ».
Un article rédigé par Sophie Serra, qui est conservateur, il faut le préciser.
Tout à fait. Et dès le début, elle nous ramène aux origines, vers l'année 1889. On y découvre le rêve un peu fou du sculpteur Denis Puech.
Oui, parce qu'il ne cherchait pas juste à faire un bâtiment institutionnel classique, il voulait construire une maison.
Sa maison, chez lui, à Rodez.
Ouais, pour y abriter ses œuvres, mais surtout ses modèles.
Et là, il faut s'arrêter un instant sur ce mot. Quand on parle de modèles en sculpture au XIXe siècle...
On ne parle pas des personnes qui posent dans l'atelier. Hein.
Non, voilà. On parle des maquettes en plâtre, des études préparatoires.
C'est ça, les brouillons en trois dimensions en quelque sorte.
Exposer ça, c'est un choix très fort. C'est montrer le processus créatif avant que l'œuvre ne soit figée dans le marbre.
Exactement. Il y avait une vraie vocation pédagogique derrière ça. Il voulait inspirer et aider d'autres artistes de la région.
Mais du coup, pourquoi un sculpteur à succès ressent le besoin de s'ancrer dans une ville de province, loin de l'effervescence parisienne ?
C'est toute la noblesse de sa démarche que Sophie Serra décrit bien. Il y a une volonté de décentralisation culturelle. Il veut rendre à sa terre ce qu'elle lui a donné.
Et il passe à l'acte. En octobre 1889, il achète un terrain.
En bas de l'avenue Victor Hugo, ouais.
C'est ça. Et il en parle dans une lettre à son ami Louis Carrier. On sent vraiment l'urgence dans ses mots.
Et ce qui rend tout ça si immersif dans le bulletin, ce sont les archives visuelles choisies par Guy Mazard.
Ah, les cartes postales, oui. Elles agissent comme de vraies pièces à conviction.
Tout à fait. L'article s'appuie notamment sur la carte CPM Col. Denis Puech, la Seine, détail, 1894, marbre.
Celle-ci montre la maîtrise absolue de la matière. C'est le marbre poli, la consécration.
Voilà. Et en face, on a la CPA Nordin Frère, Imp, Crété, Suc, Paris, autographe, Denis Puech, 1928.
Celle-ci est beaucoup plus intime. Avec la trace de la main, la présence de l'homme, des décennies après la fondation.
Ça met vraiment en perspective l'œuvre intemporelle et le créateur.
Sauf que cette permanence va être mise à rude épreuve.
D'accord, décortiquons cela, parce que l'histoire prend un virage sidérant.
Ah oui, le grand saut dans le temps.
On atterrit en 1983. La direction des musées de France envoie un jeune conservateur faire un état des lieux.
Et le constat est effarant. C'est un vrai naufrage patrimonial.
C'est glaçant. On est loin de la vision lumineuse de Denis Puech. Il y a une ironie assez féroce, d'ailleurs. Faut s'imaginer l'état désastreux du lieu. Le musée n'est ouvert que 2 malheureuses heures par jour.
La façade majestueuse est couverte de graffitis.
Le toit n'est même plus étanche.
Faut imaginer les infiltrations d'eau.
Ouais.
Et à l'intérieur, pas d'électricité.
Des rideaux métalliques sales qui occultent complètement les fenêtres.
Avec un système de chauffage atrocement bruyant.
Et les œuvres.
Ah, c'est le pire. Les œuvres sont entassées dans un désordre total derrière un vieux rideau.
Comme des meubles oubliés.
C'est ça. La muséographie était figée depuis 1940. C'était devenu un tombeau, en fait.
Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, on assiste à une vraie renaissance.
Une résurrection spectaculaire même.
Quand on regarde les chiffres actuels, le musée abrite une collection riche de 6374 œuvres. C'est énorme par rapport au placard de 83.
C'est clair. On parle de 327 sculptures, 407 peintures et 574 gravures et dessins.
Et au-delà des chiffres, c'est la cohérence scientifique qui est remarquable. Le fond s'est recentré sur la sculpture de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle.
En citant des artistes comme Raymond Broillard, François Maillot ou encore Charles Despiau.
Le musée est redevenu le point d'ancrage que Denis Puig avait fantasmé.
Mais, et c'est là que ça devient fascinant, ce bâtiment cache d'autres horizons inattendus.
Ce qui nous amène au deuxième article du bulletin.
Exactement. L'article de Monique Duguay-Boyer, intitulé « Le musée Denis Puig, un petit musée de province ».
Avec des guillemets très ironiques autour de « petit musée de province ».
Bien sûr, parce que ce cliché du lieu poussiéreux et replié sur lui-même vole complètement en éclats.
Ce qui est fascinant ici, c'est de voir Lorient s'inviter en plein cœur de l'Aveyron.
C'est assez improbable sur le papier.
Totalement. Monique Duguay-Boyer met en lumière cette présence inattendue d'œuvres orientalistes à travers un peintre précis, Maurice Bompard.
Et son parcours est captivant. Il y a un vrai tournant dans sa carrière en 1889.
L'année charnière.
Avant ça, il peignait un Orient de bibliothèque. Un Orient imaginaire peuplé de janissaires et de courtisanes. C'était l'exotisme de salon.
Mais tout change avec son premier voyage physique en Algérie, à Biskra. C'est un véritable électrochoc pour lui.
Et il s'arrête pas là. Entre 1889 et 1893, il fait pas moins de 7 séjours en Algérie.
7 séjours en 4 ans à l'époque, c'est une obsession de la vérité du terrain.
Il délaisse les fantaisies pour peindre des scènes de la vie quotidienne. D'ailleurs, l'article parle des bouchers de Setma, exposés au salon de 1890.
On est dans la crudité lumineuse, l'âpreté d'un marché nord-africain.
Et encore une fois, le choix des illustrations du bulletin est parfait pour souligner la dualité de ce musée.
Oui, il y a une carte postale très spécifique qui illustre ça à merveille.
La fameuse carte CPA Visavona, photo 65 rue du Bac, Paris.
Qui montre le tableau Maurice Bompard, chasseur sur le Cos aveyronnais.
Exposé au Salon des artistes français de 1934. Et là, le contraste est dingue.
C'est le grand écart absolu. D'un côté, la rocaille rude, le froid du plateau aveyronnais avec ses chasseurs.
Et de l'autre, la lumière brûlante de Biskra.
Et tout ça cohabite sous le même toit. Ça prouve bien que ce musée n'est pas qu'un sanctuaire local.
C'est une fenêtre ouverte sur le monde.
Si on doit résumer ce voyage offert par le bulletin numéro 57, c'est que rien de tout ça ne serait visible sans le travail minutieux de Guy Mazard.
C'est certain.
Et les recherches de Sophie Serra et Monique Duguay-Boyer nous prouvent qu'un musée de Provence n'est jamais figé.
C'est un organisme vivant.
Il peut passer d'un idéal d'artiste à un quasi-abandon pour renaître et protéger des trésors allant de la sculpture locale à l'orientalisme le plus lointain.
C'est une belle leçon de résilience. Et ça nous laisse inévitablement avec une réflexion stimulante.
Laquelle ?
Quand on réalise qu'un tel trésor a pu rester caché dans l'obscurité, derrière des rideaux métalliques et des graffitis pendant des décennies...
Oublié de tous, ouais.
Exactement. On est en droit de se demander combien d'autres chefs-d'œuvre mondiaux dorment en ce moment même dans l'oubli total d'un petit bâtiment de province attendant simplement que quelqu'un rallume la lumière.
C'est une excellente question.
C'est sur cette interrogation que se clôture notre exploration approfondie. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour ouvrir ensemble d'autres archives passionnantes.